Flaubert écrivait les pieds dans une bassine, Jack London prenait des notes dans le poste d'équipage d'un chasseur de phoques. Tandis que Nietzsche trouvait son inspiration en arpentant les chemins alpins de Sils Maria, Truman Capote se concentrait à l'horizontale, allongé sur son canapé pour la rédaction de son petit déjeuner chez Tiffany. Au grand hôtel de Cabourg, Proust oscillait entre deux inclinations. L'une cloîtrée dans sa chambre, cahier sur ses genoux, l'autre disponible aux mondanités. Quant à Pablo Neruda, c'est à la Sebastiana, dans sa maison surplombant Valparaiso, qu'il offra un refuge à sa poésie. Mais qu'en est-il aujourd'hui, à l'heure de l'ordinateur portable et des charters transatlantiques? Je suis partie à la recherche de ces lieux d'écriture et des auteurs qui les habitent. Que l'on travaille dans le brouhaha d'un café bruxellois comme Thomas Gunzig, dans le silence d'un monastère comme Milady Renoir, avec un chat contre son clavier comme Geneviève Damas, ou au milieu d'un parc à Pékin comme Isabelle Wery, le processus de l'écriture semble se mettre en mouvement dans des lieux propres à chacun. Mais l'homme, où qu'il aille, ne rencontre-t-il pas finalement que lui-même ? Questionnait avec pertinence Hannah Arendt.
J'écris pas mal sur mon lit, forcément, vu que j'ai plus de bureau. Je me suis acheté un petit accessoire qui est pas mal, qui est une espèce de truc qu'on met sur ses genoux, mou en dessous et dur au-dessus. Ça, c'est pas mal. Donc, j'aime bien écrire sur mon lit, mais ça ne remplace jamais, je trouve, au niveau de ma qualité de concentration, un environnement un tout petit peu plus agité, comme un café, par exemple. En fait, plus c'est agité, plus je me concentre. Là, ça doit être un truc que les psychologues doivent expliquer ça très bien. Dès que je suis tout seul dans ma chambre, là, j'ai tout de suite tendance à penser à autre chose ou à, en tout cas, être moins vraiment dedans, quoi. Les vrais moments, entre guillemets, un peu intenses de création, hein, où la notion du temps s'efface et on est vraiment dedans, ça a toujours été dans des endroits plutôt bruyants et agités.
Thomas Gunzig.
Moi, je me couche tôt, je me lève tôt. Ah ouais, comme les employés de bureau, ça me plaît. J'aime bien me dire que c'est un vrai travail. Ce qui me terroriserait, c'est qu'on me dise que c'est pas un vrai travail. Si, c'est un vrai travail. Des horaires d'usine, quoi.
Écrire ailleurs. De Bruxelles à Pékin, un documentaire de Vinciane Meuchler.
J'aime bien avoir l'impression que l'écriture est un vrai travail et que par conséquent je suis l'employé de mon écriture et que j'ai par rapport à l'écriture un rapport d'employé de bureau. Je me réveille le matin tôt et puis je vais à 8h au bureau, enfin ce que j'appelle mon bureau qui est en fait un café. J'ai plus de bureau chez moi, malheureusement. Et j'y travaille une partie de la journée, puis je reviens avec ma petite mallette sous le bras et j'ai fait mes heures et c'est très bien. Et je suis très très loin d'être attiré par ou d'avoir besoin d'être loin de chez moi ou d'avoir besoin d'une rupture avec les habitudes. J'aime pas les expériences qu'on fait sur soi-même en se mettant dans des contextes, dans des lieux. Ça m'énerve en fait. Je crois que mes histoires, elles sont plutôt en moi qu'à l'extérieur et que j'ai pour les convoquer, les invoquer, j'ai pas besoin de circonstances particulières autres que c'est le matin, c'est l'heure, on y met, on se met au travail.
Milady Renoir.
J'ai moi-même expérimenté de l'écriture donc dans les cafés, mais aussi dans des lieux dits insolites. Alors, quand je dis insolites, c'est pas qu'ils sont bizarres, mais c'est qu'ils ont un décalage par rapport au lieu d'écriture habituel, on va dire ça. Et donc, d'abord, j'aime le bruit, comme je l'ai dit, mais j'aime aussi les silences. Ça m'est arrivé de faire des résidences, qu'on appelle pas résidences, mais des retraites dans des monastères. Des lieux où, d'un seul coup, il y a tout qui se prête à l'écriture, à une autre forme d'écriture. Plus longue, peut-être, plus introspective, peut-être. Et donc j'ai trouvé intéressant d'amener les ateliers d'écriture que j'anime sur des thématiques particulières, par exemple l'écriture du silence, comment on écrit le silence, comment on fait de la description de silence, mais comment on crée des notions de silence dans l'écriture, qu'elles soient longues ou courtes. Et donc je me dis toujours, comment je fais pour travailler cette thématique ? Allons dans un monastère et voyons comment des zones de silence, obligatoires par ailleurs, peuvent travailler sur le corps, parce que tu es vraiment dans un rapport au corps. Tu ne vas pas devoir écrire des choses sur le silence forcément, mais tu vas être dans des notions de silence. Les gens autour de toi sont dans un silence. les personnes qui sont dans le monastère sont dans un silence. Le lieu même souvent est silencieux, ou en tout cas dans un respect des silences. Qu'est-ce que ça fait au corps? Qu'est-ce que ça fait à l'écriture du coup? À l'inverse, j'ai animé des ateliers d'écriture de nuit, en faisant des bars de nuit, où là, ben, toutes les explosions dont je parlais tantôt, ben là, évidemment, on est dans ces rapports-là. Qu'est-ce que tu captes? Qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce qui est important pour l'écriture dans ce que tu gardes? En fait, à chaque fois que j'ai fait des ateliers dans des lieux bruyants, par exemple, y compris dans une usine à Roquerie, donc à Charleroi, où il y avait le bruit des fonderies et tout ça, qui était encore en activité pour un festival, ben donc il y a toute cette manipulation du son qui t'arrive, qui te rentre dans le corps. Tu peux pas y échapper, en fait. Et puis après, voilà, l'écriture est brute, et qu'est-ce que tu en fais? Comment tu travailles des effets? Est-ce que la mécanique que tu entends, tu la transmets dans un rapport au récit? Est-ce que c'est juste une description du bruit? Est-ce que c'est une description de l'impact que ça a sur ton corps? Enfin, toutes ces choses-là m'intéressent. Donc pour moi, il y a toujours ce rapport poreux que je disais tout tantôt à écriture et lieu, écriture et rituel aussi. Tu rentres dans un lieu, tu dois t'y adapter, tu dois ou pas t'y adapter. Et quels sont les effets que ça a sur ton corps, sur ton tempérament? Et pareil pour des lieux bruyants, comment tu fais pour t'en sortir en fait, et comment l'écriture peut surgir à ces endroits-là. Il y a des lieux plus drôles aussi, où une cave de dégustation de bière, où du coup on est dans une ambiance. Bah, il y a évidemment le bruit, mais il y a aussi clairement l'odeur, enfin voilà, toutes des séries de choses qui fait que tu peux pas t'y échapper non plus. Et donc comment ça rentre là-dedans? Et puis des lieux comme le cinéma, par exemple, j'ai animé il y a très longtemps un atelier d'écriture à Arenberg. Et les gens avaient une lampe de poche, une lampe de mineur sur le front, juste pour écrire dans leur petit espace comme ça, une sorte de cocon artificiel et éphémère, parce que c'est le temps d'un film. Et voilà, il y avait des notions d'écriture sur qu'est-ce que c'est d'écrire en catimini, tu vois, et presque à l'affût, sans trop déranger d'autres personnes par ailleurs. Et puis qu'est-ce que tu prends du film? Quels sont les endroits, encore une fois, de porosité avec le film? C'est comment fabriquer, en fait, dans les ateliers que j'anime, comment fabriquer à partir du lieu un espace de liberté et un espace de contrainte. Ça, c'est toujours dans tous les ateliers d'écriture, je crois. Mais je crois que les lieux peuvent créer un espace de création différent que si t'es chez toi, que si t'es dans une pièce. Elle est typique de l'atelier d'écriture dans une bibliothèque ou, tu vois, ou dans un endroit clos, une salle de réunion, enfin des choses comme ça qui amènent toujours de l'écriture si l'atelier anime. Mais je crois que, voilà, il y a des zones pluriel. Et je pense aussi à une fois où j'ai fait un atelier d'écriture de nuit dans un hôtel dit de passe, où j'avais demandé aux personnes, dès le départ, de marquer leurs effets, quoi. D'inscrire vraiment sur un carnet, enfin quelque chose qui ne soit pas trop visible. Donc dès la porte, dès le passage, apercevoir les autres personnes qui étaient là, il faut dire que le décorum était quand même bien kitsch, tout l'interdit, tout le tabou, enfin tu vois, etc. Et donc là, on est dans des effets très fort, en fait. On n'est pas tous familiers ou familières avec ce genre de lieu, avec toutes les questions morales que ça amène pour certaines personnes, les questions politiques que ça amène, parce qu'il y a beaucoup de prostituées qui fréquentent ce genre de lieu. Donc voilà, t'arrives là, avec tout ton fardeau et ton paquet moral et mental et psychique, etc. Et puis il va falloir écrire, ok, mais... Et donc, on est allé de bar en bar. Et le dernier bar, c'est un bar où il y a une clientèle particulière avec un personnel particulier. Et donc, il y a toute cette question de l'attente. Et donc, on avait travaillé le suspense, en fait. Tu vois, de toute cette attente qui est de la séduction artificielle, parce qu'elle est rémunérée, elle est... Enfin, voilà, c'est tarifé, cette séduction. Mais quand bien même, c'est super intéressant. C'est théâtral aussi, tu vois. Tu peux pas t'empêcher d'observer toutes les mimiques et du client. Il y a rarement des clientes. Et de la personne qui va offrir un service. Enfin, voilà. Et donc, si tu prends ça du premier degré, ça peut être très théâtral à le faire, avec créer des dialogues qui sont parfois surfaits, mais c'est intéressant de travailler ça, jusqu'à des notions plus intimes, de monologue intérieur, voilà. Avec aussi une fabrication politique. Qu'est-ce que c'est, tu vois, le travail du sexe? Qu'est-ce que c'est la prostitution? Qu'est-ce que c'est les violences? Qu'est-ce que c'est, quand bien même ça ne serait pas forcément lié, mais bon, voilà. Qu'est-ce que c'est les positions dans le café? Qu'est-ce que c'est les positions dans ce café-là, précisément à 4 heures du matin? Donc voilà, tout ça, ça peut se travailler en écriture et puis en dialogue aussi, parce qu'on relit les textes et on a des échanges, etc. Là, on ne l'a pas fait sur place parce que l'idée, c'était d'être le plus discret possible pour ne pas passer par le groupe de touristes, tu vois, qui s'incrustent. Et puis donc après, bah, c'était aller dans les chambres. Et donc là, j'avais heureusement une alliance avec le patron qui avait trouvé ça chouette. Ça n'a pas toujours été le cas dans d'autres lieux où j'ai essayé. Et donc, on était trois par chambre. Bon, et les chambres sont rarement décorées de manière design, on va dire, tu vois. Donc, bon, il y a des effets, en fait, de l'humour, beaucoup de choses. Et donc, j'avais travaillé sur ce qu'on appelle les tangibilia. Ça, c'est un texte de Deleuze qui parle de tout ce qui est tangible dans notre vie, tout ce qu'on peut toucher réellement. Et donc, j'avais fait un travail sur, voilà, si tu touches le drap, qu'est-ce qu'il y a dans ce drap? Tous les objets chargés comme des fétiches, quoi. Si tu touches cette couette, forcément, il y a eu des choses dessus. Si tu touches le rideau, si tu touches le miroir, si tu touches la douche, etc., etc. Donc, c'était assez drôle parce qu'il y avait des personnes avec des rapports à l'hygiène, enfin, tu vois, des gènes. Et puis, toute l'imagination qui déborde d'un seul coup, ben, si cette tâche, c'est vraiment toute cette tâche-là, enfin, voilà, voilà. Bon, ça a été très drôle. Et puis, à 6h du matin, on est sortis de là un peu éméchés, mais pas au sens alcoolique du terme, mais tu vois, emportés, en fait, par les effets. Les textes étaient extrêmement sensibles, au sens d'impressionniste, avec des effets de texte que tu n'aurais pas si on l'avait écrit. Tu peux lire dans un atelier d'écriture dit classique ou dans un lieu plus classique, lire un passage de Nana ou de Zola, tu vois, ou des textes qui traitent de ces zones-là, de ces lieux-là, de ces non-lieux aussi. J'avais pas prévenu. J'avais dit qu'il y aurait des lieux plus ou moins insolites, mais j'avais pas prévenu.
Isabelle Wery.
Le fait de travailler dans des endroits publics, même bruyants, même où il y a beaucoup de passages, m'aide en fait paradoxalement à être concentrée. Parce que je suis obligée d'être à ma table, de faire un effort pour être très concentrée. Et du coup, je sens que ma concentration est plus intense. Et puis, c'est quand l'esprit a besoin de se relâcher, il y a toujours des choses à observer, des allées et venues, donc c'est assez agréable. Mais le fait d'être obligé d'être assis, ça, c'est important. Parce qu'à la maison, on est sollicité par mille choses et on se lève. Enfin, voilà, la concentration, c'est un peu plus compliqué, enfin, pour moi.
Avant, je pensais écrire, c'est prendre du temps pour soi. Réécrire, c'est prendre du temps pour soi, mais en fait, c'est bien aussi de prendre que du temps pour soi, parce qu'à un moment, ça nourrit l'écriture, ça nourrit tout le reste. Mais ça, ce temps-là, c'est pas simple, je trouve. Voilà.
Geneviève Damas.
Je trouve que quand on est une mère de famille, c'est... il faut faire du temps. C'est de la résistance, en fait, écrire. Ça a l'air de rien, mais... Voilà. J'écris dans les cafés aussi. Je ne vais pas écrire dans les cafés, mais j'ai toujours souvent mon ordi avec moi. Et donc, si j'ai une heure de break, j'y vais... Il faut parfois négocier avec la musique et parfois négocier avec les conversations des gens qui sont à côté de vous.
Nathalie Sarraute.
Vous travaillez chaque jour ?
Je travaille d'habitude, oui, chaque jour.
Beaucoup d'heures ?
Non, pas beaucoup d'heures. Je vais dans un café. Avant, je restais 2h30, 2h15. Maintenant, je reste 2h, 2h15.
Un café des environs de l'Étoile, enfin, dans le quartier. Un café du quartier. Toujours le même ?
Toujours le même. Il y en a des années. Enfin, avant, il n'existait pas.
Oui.
Il fallait dans un autre. Mais là, depuis qu'il est là, j'y vais.
À quel est ce café ?
Ah ben ça, je ne le donne pas.
Voilà. Et vous installez
c'est
dans
mon
un
secret.
Coin. Vous installez dans
je
un
me
coin.
Je me mets dans un coin et là, j'ai la paix. J'ai la tranquillité. Et le bruit des voix ne me gêne absolument pas. Je ne les entends même pas. Je me concentre complètement et à ce moment-là, je ne suis ni homme, ni femme, ni chien, ni chat, ni vieillard, ni vieillarde. Je ne suis rien du tout.
Alors, vous avez votre crayon, votre papier.
J'ai ma rame de papier, j'emmène mon cartable, mon bonne écolière.
Ouais.
Je sors le matin comme j'allais en classe. Et puis, je prends une pointe feutre.
Vous corrigez beaucoup ?
Il y a des passages que je corrige énormément, que je refais une quantité innombrable de fois. Et d'autres qui viennent plus facilement.
Alors, pour récréation, vous n'emportez pas avec vous dans le cartable un livre, le livre de quelqu'un d'autre ?
Ah, jamais. Il n'est pas question que je me distraisse. C'est ça, l'avantage du café, c'est qu'on est coincé. Et quand on est chez soi, c'est tellement dur de se mettre à ce travail. Il est tellement dur.
Mais vous lisez quand même, vous lisez les autres.
L'après-midi, je lis l'après-midi. Mais le matin, si j'étais ici, bien pour ne pas travailler, je chercherais une lettre que j'ai perdue, je prendrais un livre, je ferais n'importe quoi pour ne pas travailler. Je suis obligée de travailler.
élevée dans un café très bruyant, très grand, avec des grands-parents très loquaces, donc c'était mes grands-parents qui tenaient le café. Personne très joviale, ouais, donc avec beaucoup, beaucoup d'histoires. Ma grand-mère racontait des blagues, détournait l'actualité pour que les clients bourrés ou pas bourrés amplifient les choses.
Milady Renoir.
Il y avait des journaux aussi, donc il y avait une partie librairie. Donc ça veut dire que les gens commentaient énormément l'actualité, racontaient beaucoup de conneries, bien sûr, donnaient leur avis, etc., etc. Et moi, je faisais mes devoirs, en fait, dans la terrasse s'il faisait chaud ou à l'arrière-salle s'il faisait moins chaud. Et donc, du coup, j'étais en témoin invisible puisque je savais que j'étais là, mais les autres savaient rarement que j'étais là. Ou on venait me parler, mais c'était quand même rare. Du coup, j'avais voilà, cette ambiance. Ben, j'écris pas des trucs longs. Et puis, j'ai une écriture plutôt poétique. Et donc, en fait, soit la scansion, la répétition, soit des phrases sans ponctuation. Enfin, je veux dire, on pourrait presque dire qu'il y a quelque chose de malléable dans le café qui fait que mon écriture peut être à ce niveau-là. Après, il y a relecture, il y a réécriture, si besoin. J'arrive à écrire et saisir ce qui se passe. J'écris vite aussi. Et donc, je pense que je peux rapidement me faire attraper et retranscrire ça dans un moment quasi immédiat. Voilà, cette ambiance extrêmement bruyante, vraiment. Puis à l'époque, on fumait. Et en même temps, c'était un endroit dans lequel je me sentais... Alors, c'était chez moi, c'était là où je faisais mes devoirs. Et puis, c'était aussi l'endroit où j'entendais énormément de trucs, quoi. Donc, j'ai un peu acquis cette capacité à supporter ce bruit, à écouter les conversations. Je crois que je peux vraiment... Mon fils dit que c'est un super pouvoir, que je peux écouter 2-3 conversations en même temps et avoir une conversation pour moi-même. Du coup, cette habitude-là fait que j'ai toujours aimé les cafés, d'abord. Et puis, quand l'écriture est arrivée dans ma vie de manière plus régulière, les cafés sont devenus un espace d'habitude, d'abord, de plaisir, parce que j'adore l'ambiance des cafés, et de croisement, en fait, de trajectoire. Tu entends des trucs de vie, des plus tristes aux plus joyeuses. Y a une liberté de parole, je crois, dans les cafés qui fait que tu t'y retrouves, quoi. Et donc, j'ai beaucoup écrit dans les cafés, j'ai beaucoup écrit sur les cafés, j'ai écrit beaucoup de personnages qui sont des personnages de café. J'ai beaucoup de souvenirs de personnages du café de mes grands-parents, avec la gouaille, tu vois, le titi parisien, donc voilà, des francs-parlers. Donc oui, les lieux, comme café, le café comme lieu, ça fait partie des lieux favoris et hyper complexes, en fait. Il y a beaucoup de niveaux dans le café, et si tu vas de bonne humeur, tu peux rester dans cette bonne humeur. Si tu vas de moins bonne humeur, tu vas vite te retrouver à être accaparé par les gens qui vivent des choses tristes. Enfin, voilà. Donc c'est un café où il y a beaucoup de porosité entre les gens, je trouve.
Alors, Bar du Matin, c'est pas mal, parce qu'effectivement, à la base, j'avais un bureau chez moi.
Thomas Lunzig.
On avait un appartement avec 4 chambres, 2 enfants, un adulte, enfin 2 adultes, et puis un bureau. Et puis, il y a un troisième enfant qui est arrivé, donc j'ai annoncé à mon bureau. Et puis, le Bar du Matin, il est pas mal, parce que j'ai du Wi-Fi, j'ai une petite prise de courant pour brancher mon ordinateur dessus. Il est à la fois très anonyme, il y a beaucoup de passages, beaucoup d'agitation. Et puis, de temps en temps, j'ai l'un ou l'autre collègue qui passe, avec qui on peut faire une petite pause, discuter, prendre un café. Donc, c'est vraiment... Comme une atmosphère de bureau, quoi. Il y a quelque chose d'assez studieux, là. Il y a pas mal de gens qui bossent. Je trouve ça bien. Bon, maintenant, quelquefois, il m'arrive de me déplacer. Mais c'est, de nouveau, j'aime bien mes habitudes. Hein. Donc, j'aime bien, effectivement, 8h, le Bar du Matin, la petite table près de la prise, le Wi-Fi. Et j'y vais. Maintenant, j'ai pas forcément besoin de ça parce que, bon, c'est vrai qu'avec les livres, les traductions, etc., je suis souvent amené à me balader. L'année passée, j'ai beaucoup, beaucoup bougé. J'étais entre Pékin, Haïti, l'Allemagne, la Pologne, la Tchéquie, tout ça. Et maintenant, je pense que j'arrive à bosser partout, dans une salle, un aéroport, une gare, un train, un avion. J'arrive à bosser dedans. Non, il y a une condition, c'est quand même que j'ai mes écouteurs et la musique dedans. Mais sinon, j'aime plutôt bien bosser dans des aéroports et dans des gares et dans des avions et dans des trains. Puis j'arrive à l'hôtel et puis je rebosse un coup et puis je rentre chez moi et je reprends. Il y a vraiment... Et je bénis chaque jour l'inventeur de traitement de texte et de la sauvegarde dans le cloud qui permet de synchroniser tout ça avec le téléphone ou avec la tablette et de retrouver tout ça chez soi quand on rentre. On n'a jamais été aussi bien outillé pour écrire ailleurs que chez soi, finalement.
Dans les cafés, j'écris pas trop avec l'ordi parce que ça se voit trop que j'écris.
Milady Renoir.
Et donc je trouve qu'il y a Il y a un écran, donc, au sens propre du terme, qui fait que les gens se mettent en retrait, souvent. Donc j'aime bien écrire dans les carnets, ça fait très, c'est vraiment la typique image, tu vois, mais j'y peux rien, c'est un cliché, mais assumons. Donc dans les carnets, j'écris différemment que sur l'ordi. Les rituels, sinon, la musique, j'écris en musique. J'aime la musique forte, enfin, là c'est un autre lieu aussi, on pourrait presque dire que la musique c'est un lieu en soi. Évidemment, c'est comment créer un espace intérieur qui est vraiment l'écriture. Et donc ça sous-entend une forme de transe quelque part, tu vois, d'autosuggestion. Je vais me mettre à l'écriture, l'écriture est là, je suis en train d'écrire, etc. Et d'essayer de maintenir cette tension le plus longtemps possible.
En fait, je crois que c'est ça qui me plaît, le fait d'aller écrire à l'étranger, c'est qu'en permanence, on est stimulé.
Isabelle Wery.
Et c'est vrai que l'écriture demande un esprit, enfin pour moi en tout cas, demande quand même d'être dans un certain état de transe, je dirais, d'être relativement électrique et un peu en état de c'est pas surexcitation, mais quelque chose de up, 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 comme ça. Donc être dans Pékin, je suis en permanence stimulée. Donc ça m'aide pour l'écriture. J'avais séjourné déjà deux fois à Pékin. C'est une ville qui m'attire énormément, qui au quotidien est très attrayante. Il y a énormément de vie et tout évidemment est un peu particulier. Donc être à Pékin, en tant qu'Européenne, on est dans un état permanent de surprise et d'étonnement parce que l'aventure est à chaque coin de rue. Extrêmement excitant, je veux dire, pour l'esprit, pour la vivacité, comme ça, d'être baigné dans ce climat-là. Même si c'est un pays compliqué, avec une situation politique qui est extrêmement préoccupante. Donc moi, je voulais vraiment y écrire, parce que j'ai un nid là-bas, si je puis dire. J'ai des amis, j'ai un peu de liens sociaux, j'ai des liens avec des éditeurs aussi. Et je savais que je pouvais y trouver mes repères, mes cafés pour aller écrire, les endroits où je peux aller manger, les parcs, etc. Je rêvais vraiment de ça. Puis j'étais un peu baignée aussi, je crois, des écrits de Jean-Philippe Toussaint, je pense, que j'apprécie beaucoup. Donc c'était pour travailler sur un nouveau roman. Il devait pas se passer en Chine au départ, mais la Chine s'est imposée petit à petit dans l'écriture. Ce qui est très gai dans cette ville, c'est que, par exemple, j'allais écrire dans un parc. Et déjà, entrer dans ce parc pour me rendre dans le bistrot où j'allais écrire, c'était déjà toute une aventure. Les gens, le matin, les Chinois, ils dansent, ils font du tai chi, ils font des arts martiaux. Et donc, l'aventure, c'est plein d'aventures, de sensations, d'images très, très énergisantes. Je me lève, je prends mon grand vélo, je bois un thé dans un bistrot, puis je rejoins le bar dans le parc et je m'installe dans ce bistrot. Et d'ailleurs, je me suis liée d'amitié avec les tenanciers. Et voilà, les gens en général sont très accueillants. Quand je leur dis que je viens, que je suis là pour écrire, ils sont attentifs, ils me préparent une petite table. Enfin voilà, ils me protègent un peu, c'est assez agréable. Et voilà. Oui, c'est des sonorités aussi, la Chine. Ça, je ne sais pas encore comment ça va m'influencer sur l'écriture, mais parce que je n'ai pas encore commencé à écrire sur la Chine, mais je sais que j'y tends. Rêver autour du roman, c'est aussi la préparation du roman. C'est tout ce moment où on accumule des infos, des sensations, des images, qui est tout le boulot de souterrain. Enfin, pour écrire, j'ai vraiment besoin de visualiser les lieux que je décris. Et j'ai besoin de les avoir fréquentés, d'avoir la sensation des espaces, des lumières, etc. Donc, être en Chine, c'est aussi appréhender des lieux, des espaces. Puis aussi, j'ai eu la chance d'aller dans une petite ville à 700 km de Pékin qui s'appelle Pingyao, qui est une cité qui date du XVIIe siècle, entièrement entourée de remparts et qui est totalement préservée, qui est classée au patrimoine de l'UNESCO. Et là, c'est juste mais dingue. On entre dans une Chine comme ça, ancestrale, fabuleuse, fascinante. Ça, c'était aussi très, très inspirant.
Musique.
été invitée l'année dernière dans le cadre d'un festival Union européenne-Chine, un festival de littérature internationale, et nous étions donc des auteurs européens et des auteurs chinois. Donc on a eu beaucoup de tables rondes, des rencontres avec le public, etc. Donc c'était extrêmement intéressant de confronter nos pratiques, mais aussi de se rendre compte pour les Chinois, par exemple, que nous, auteurs européens, on peut à peu près écrire à propos de tout. Et donc, on a beaucoup parlé de ça, de la liberté, etc. Et je suis devenue particulièrement amie avec une autrice qui s'appelle Sheng Kei, dont le dernier bouquin vient d'être publié chez Pliquier en France, traduit par Brigitte Duzan, et qui est une jeune femme assez courageuse, voilà, qui dénonce ce qu'elle voit dans son pays. J'ai aussi fait une résidence dans le cadre de la SCAM. J'ai obtenu une bourse pour faire une résidence à Passaporta, donc dans Bruxelles, ce qui, voilà, qui était une expérience pour moi. Et c'était vraiment bien parce que je me levais le matin et j'allais au bureau, j'allais travailler, j'allais écrire. Et c'était intéressant de me retrouver dans ma propre ville, dans une espèce d'îlot, îlot bureau à Passaporta. Puis c'était l'occasion aussi de rencontrer l'équipe de Passaporta, de nouer des liens, de rencontrer les autres résidents. C'était très stimulant.
Thomas Lunzik.
On a plus ou moins fait faire une résidence il y a des années de ça, quand j'étais encore un tout, tout jeune auteur. Je ne pense pas que j'avais 30 ans. Non, je n'avais pas 30 ans. À Euralil, qui est une espèce de centre commercial avec des flat hôtels assez moches. Et je devais écrire un texte, je pense, sur l'île, je ne sais plus très bien. Mais enfin bref, j'ai passé une semaine là. Je n'ai pas aimé, l'endroit était moche. Mais ce n'est pas parce qu'il était moche que je n'aimais pas. C'est parce que je n'étais pas chez moi, je pense. Et c'est parce que je n'aime pas quand je suis dans un lieu pour y faire quelque chose. Enfin, si, j'aime être en vacances, a priori, et encore. Mais être dans un lieu et puis savoir que je suis dans ce lieu pour écrire, ça me déplaît, en fait. Le temps est important, mais le temps, c'est de l'argent. Donc je préfère qu'on me donne de l'argent et que je puisse décliner quelques commandes pour pouvoir me concentrer sur un roman en cours plutôt que de ne pas me donner d'argent et de m'envoyer dans une résidence, même si j'y suis logé et nourri. J'aime pas les résidences. Déjà, j'aime pas que ça soit un truc pouvoir public ou un tout petit peu. J'aime pas que une quelconque forme de paperasserie vienne fourrer son nez dans mon processus créatif, quoi. Même si j'ai déjà été amené à demander de l'argent moi aussi, parce que quelquefois j'en ai eu besoin. J'espère ne pas devoir, peut-être que si, demander. Mais il y a quelque chose, moi, que j'aime pas. Voilà, j'aime bien sentir qu'en gros je dois rien à personne.
Mais donc, moi, j'ai une expérience juste fabuleuse qui était à la Villa Ursena, un mois.
Geneviève Damas.
Enfin, c'est parce que je vais redevenir, je vais recommencer, je suis une mère de famille. Mais donc, tu es là, on te fait ta chambre, on te fait ta nourriture, et tu as un domaine formidable, enfin, arboré et tout ça. Enfin, moi, je me levais à 6h du matin, j'écrivais de 6h à 8h30, puis de 8h30 à 9h, je déjeunais, puis je prenais ma douche, de 9h30 à 11h30, j'écrivais, puis j'allais marcher une heure, et puis je réécrivais une heure, et puis je mangeais une heure, et puis j'écrivais 2h, j'allais marcher une heure, enfin, je veux dire, et j'écrivais jusqu'à 11h30 du soir. Moi, ça, c'était le bonheur intégral, et alors, j'abattais un travail. Alors, ce roman-là, j'ai cru à un moment qu'il était fini, il n'est pas fini, mais parce que je recommence, je suis lente, mais le travail de soubassement était fait comme ça. Et alors, il y a d'autres auteurs qui sont là, avec lesquels on discute. Puis il y avait une bibliothèque, puis on pouvait regarder la télé, mais ça, je n'ai jamais regardé. Et je faisais que marcher, quoi. Marcher, écrire, lire. Mais ça, c'était juste... J'ai jamais ça. C'était les vacances totales, quoi. Sauf que c'est une résidence, donc on a, mine de rien, on a un salaire, et on est dans un cadre de vie... Oui, il y avait une cuisinière qui cuisinait magnifiquement, c'était juste... Mais insensé, tellement c'était bon. J'ai avancé, mais bon, je crois que j'écrivais 15 à 16 heures par jour. Ce qui ne m'arrive jamais dans ma vraie vie. Enfin, si j'écris 6 heures, bingo, c'est incroyable. Je suis arrivée avec un manuscrit qui était avancé un bon gros tiers. Et donc, je l'ai fini là-bas. Alors, j'ai fini... J'ai refait une deuxième version. Je trouve que c'est pas bon, enfin, c'est pas suffisant. Donc, je repars d'un autre côté. Mais tout ce travail de soubassement est fait. Et ça, j'ai pu le faire à une alu. Et puis, il y a de la documentation, on a Internet et tout. Donc, on imprime des trucs, on lit, on va chercher. Moi, c'est le bonheur. Moi, je rêve d'en refaire. Alors après, à chaque fois... Là, justement, il y a le directeur de la bibliothèque Armand Gatti qui était ici il n'y a pas longtemps. Et c'est des résidences d'un mois à Toulon. Là, je ne peux pas partir un mois. Il me faudrait des petites résidences de 15 jours, d'une semaine. C'est dommage. Bon, on sera plus tard. Enfin, voilà, c'est pas grave, on se débrouille autrement. Mais c'est vrai que c'est un accélérateur.
Ouais, donc c'est positif.
De fou. Ouais. Moi, franchement, je recommande. Ouais. Il faut faire ça. Ouais. Pas que ça, parce qu'en même temps, en écrivant, on doit être connecté au monde, mais... Oui. Surtout, alors c'est égal pour les hommes ou les femmes, et moi je trouve en tant que femme avec quatre mots, parfois on est tellement fatigué en fin de journée, on essaye d'écrire quand même, et c'est pas terrible là. Je dormais bien dans ce calme, il n'y a pas un bruit, il y a plein d'oiseaux, des fleurs, enfin, c'est juste parfait. Pas de chat.
J'ai un peu peur des résidences dans le fin fond de la forêt où il n'y a que les feuilles. J'adore la nature, mais je redoute un peu. Mais non, je fais ma chambre à moi, mais dans un lieu public.
Isabelle Wery.
Et quand c'est un pays étranger, voilà, il y a tellement de stimuli. Aussi, quand on ne comprend pas la langue aussi, on est dans une espèce de bulle. Puisque voilà, on est quasi dans l'impossibilité de communiquer, de comprendre ce qui est dit. Donc on est dans une bulle, dans une musique permanente. Par exemple, la langue chinoise est magnifique, elle a des sonorités tellement bizarres, différentes des nôtres, que ouais, c'est comme être dans une espèce de chant.
Sorge Chalandon.
J'écris la nuit, que la nuit, lorsque la nuit est tombée, parce que j'ai fermé la porte de la maison, mes enfants dorment, ma femme dort, il n'y a plus de bruit dans Paris, plus de bruit du tout, et tout d'un coup, la musique des mots peut remonter et elle est différente. Donc je trouve que les mots, la nuit, sont des mots chuchotés, et je les préfère la nuit. Je n'ai pas de bureau et en fait j'écris dans ma salle à manger, dans la salle où nous dînons et où nous déjeunons ensemble. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut que tout le monde soit couché. Mais je n'ai pas de lieu de l'écriture. Mais je ne peux écrire que là. Je ne peux pas écrire dans un café, je ne peux pas écrire dans un train. Il faut que je sois dans cet endroit-là, dans ce lieu-là chez moi pour écrire. Le rituel d'écriture le plus important, c'est que j'écoute de la musique, le même CD, pendant toute l'écriture du livre, pendant deux ans. Pour ce livre-là, pour le quatrième mur, j'ai écouté Maurice Duruflé, c'est de la musique baroque. Et pendant deux ans, j'ai écouté cette musique baroque. Et c'est pas pour écouter de la musique, je l'entends plus. Mais c'est que quand j'arrête d'écrire et que je m'y remets, la musique me ramène exactement là où j'étais quand j'ai arrêté. En fait, la musique, c'est la géographie de mon travail.
Mais alors ça, souvent, moi, j'ai rien à dire aux auteurs. Mes meilleurs amis sont des gens qui ne sont pas forcément dans la profession. Et voilà, les auteurs, voilà, ils parlent de leurs petits problèmes d'auteur. Hein, quel tirage, ils publient où, ça a bien marché, ils ont un article, oui, non, et puis c'est déprimant, en fait. Donc il ne faut pas parler avec les auteurs quand on est auteur soi-même.
Thomas Lunzig.
Mais alors là, je vais en fait parfaitement contredire tout ce que je viens de te dire. C'est-à-dire que c'est un roman que j'ai commencé quand j'avais été invité au Salon du Livre de Thessalonique. Et donc, je l'ai commencé dans un petit café à Thessalonique. Et je l'ai bien démarré là. Il y avait une bonne ambiance dans cette ville, c'était chouette. Et puis, du coup, je pense que pour le terminer, je le terminerai du côté de février, je vais m'offrir une petite semaine tout seul à Thessalonique. J'ai envie d'être tout seul à Thessalonique et de terminer ce roman tranquillement là-bas. Mais c'est pas une résidence, pas vraiment une résidence, parce que c'est moi qui décide d'aller là, qui n'ai rien à foutre là, et que je pourrais très bien juste regarder passer les bateaux si je voulais, et que je suis obligé à rien. C'est pas, c'est pas un endroit où je sais que 1500 auteurs sont passés avant moi. Ça me fait aussi un peu débander l'imaginaire, quoi. Donc, c'est moi qui l'ai trouvé, cet endroit, et je l'aime bien. C'est-à-dire que ce qui est gai, c'est que c'est un geste purement gratuit. Enfin, si, c'est un coûté un peu l'hôtel et l'avion. Mais c'est-à-dire qu'a priori, j'ai pas à partir en pleine année une semaine de chez moi pour aller à l'étranger. Et c'est, voilà, c'est de nouveau peut-être un petit... dans le train-train quotidien de la vie, c'est un petit geste libre que je pose. Voilà, je vais partir une semaine en Grèce. Et c'est gai d'affirmer comme ça un tout petit peu, voilà, sa liberté par rapport au temps, aux événements, à la création. Je travaille tout le temps, tous les jours, sauf en vacances quand on est sur la route et qu'il faut rouler 800 km, que là, forcément, la journée se passe à autre chose. Mais sinon, je travaille vraiment tous les jours. C'est très rare quand il y a une journée où je n'ai pas bossé ne serait-ce qu'une heure, quoi. Comme nous le savons tous, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment vivre de ses droits d'auteur, enfin sûr, on ne sait pas vraiment vivre de ses droits d'auteur de romans, donc moi j'ai toujours des trucs en cours. Là, pendant les vacances, j'avais des scénarios de BD à terminer. L'année passée, je crois que j'avais un spectacle à écrire. L'année d'avant, j'avais un autre scénario pour le cinéma, un truc qui a foiré, mais enfin bon, voilà. Donc j'ai toujours mon petit ordi avec moi, et toujours, moi, dans la journée, j'ai bossé 2-3 heures, quoi. Le roman, c'est ce qui demande le plus de concentration, c'est le plus difficile. Donc c'est ce qui demande, en tout cas pour moi, une mise en condition la plus délicate, c'est-à-dire que faut vraiment rentrer dedans, et donc j'ai besoin de plages de liberté plus longues. Si c'est juste pour une heure, c'est compliqué.
Et après, c'est parce que j'aime tellement écrire ailleurs que je crois qu'à un moment, j'ai fini par délaisser mon lieu intime.
Milady Renoir.
Mais il y a des moments d'écriture que j'avais avant la naissance de mon fils, qui était chez moi. Et voilà, le fait de se lever à une certaine heure le matin et du coup d'avoir sa journée dite habituelle, même si j'ai pas un boulot de 9h à 5h, mais enfin bon, quand même. Et un rythme suivi sur un enfant en bas âge fait qu'à un moment, tu as des rituels qui sont produits par le quotidien. Et moi, j'ai un biorhythme d'écriture qui est de 5 à 8 heures le soir. Et donc 17h, 20h, en gros, c'est l'heure de mon fils. Tu vois ? Donc c'est des questions personnelles, mais c'est des questions, je crois, qui relient beaucoup de personnes qui se retrouvent dans la difficulté de se mettre à l'écart du quotidien, etc. Ou, voilà. Donc ça, j'ai aucun problème de le faire chez moi. Tout ce qui est autre écriture, donc l'écriture personnelle, etc., j'ai beaucoup de mal à le faire chez moi. Sauf s'il m'arrivait un truc intime, mais là, c'est pas la même écriture. Ou là, je suis dans un déversoir. Donc, c'est pas la même chose, encore une fois. Mais donc, j'ai du mal à écrire. Non, j'ai pas du mal. J'écris différemment quand j'écris chez moi. Voilà.
J'avoue que toutes les résidences que j'ai faites pour l'instant sont des résidences plutôt à ma charge, donc... Mais bon, voilà, je voulais écrire dans ces cadres-là.
Isabelle Wery.
Je travaille chez moi, je n'ai pas de bureau. Le bureau, la table de la cuisine, le canapé. Parfois, je m'installe à la fenêtre comme une concierge. Je regarde ce qui se passe et j'écris en même temps, j'aime bien. Et puis, quelques cafés, oui. Mais pas de bureau. Je ne sais pas, le bureau m'impressionne trop, peut-être.
Geneviève Damas.
Oui, c'est vrai que j'ai écrit un texte. J'ai une nouvelle sur mon chat. Sur mon chat qui est mort. Donc voilà. Enfin, c'est une fiction. Hein. Ça parle quand même de lui. En fait, l'autre passe son temps à lui manger ce qu'elle a. Et en fait, elle est toute maigre, elle ne mange rien. Donc, voilà. Je te mets bien. Tu sens que c'est là, ça va? Ok, c'est bon, super. C'est parti. En sortant de l'IAD, je me disais que je n'allais pas avoir de boulot et qu'autant être contente d'être chez soi, il y a un chat. Et en fait, j'ai eu tout de suite du boulot, donc c'est un chat que j'emmenais avec moi à Paris, etc. Il a été avec moi partout, en fait. Puis bon, il y a eu les enfants, donc après, j'ai un peu moins bougé. Et quand je bougeais, je prenais plutôt l'enfant que le chat. Mais il était là, c'est vrai qu'il était là tout le temps, sur les genoux, sur, puis il y en avait une autre, mais là, qui est morte, mais qui était carrément sur l'écran de l'ordi quand j'avais un fixe, et qui, quand j'écrivais, il était là, quoi, il ronronnait. Et donc, oui, l'écriture se fait très tout le temps avec un chat, quoi, un chat qui est là. Soit qu'il, maintenant, évidemment, j'écris sur un portable, donc il ne peut plus se mettre dessus, mais il se prélasse à côté, c'est vrai que c'est une présence. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. Je sais qu'on dit que les chats... J'ai un ami qui dit... Mais c'est juste parce que tu leur donnes à manger. Il n'y a rien, il n'y a pas d'émotion. C'est des animaux idiots. Je trouve qu'ils sont vachement beaux, les chats. J'aime bien leur indépendance. Je trouve qu'ils, ouais, ont une présence. Moi, y a des moi, mes chats... Enfin, voilà. Là, mon grand chat, donc à qui je dis mon grand chat, parce que ça a été le chat fondateur... que j'ai emmené partout et qui est mort la nuit des attentats. Donc le seul jour où j'ai pas pu rentrer ici, rue Max Rose, il est mort cette nuit-là. Je me dis qu'il en a, il savait que je rentrerais pas, il en a profité pour tirer sa révérence. Moi, j'avais 19 ans, hein, donc c'était quand même... Peu importe, parce que sous moi, j'écris quand même aussi beaucoup parfois la nuit et qu'ils sont toujours là, quoi. Il y a toujours... C'est agréable. Et que ce soit bon ou pas bon, ils liront pas. Ils entrent comme des empereurs, quoi. Voilà. Bon, alors, ils peuvent être froissés, râles, ils ronchonnent et tout ça, mais oui, il y a quelque chose d'assez aérien. Quand j'écris « Si tu passes la rivière », on en avait 6. Là, j'en ai plus que 2. Alors, c'est rigolo, 2,5, parce qu'il y a Apple, qui est le chat qu'on a recueilli, qui, à mon avis, se fait plusieurs maisons. Alors, mes enfants trouvent que c'est qu'il n'y a plus personne. Ils me disent, mais il n'y a plus de chat, il n'y a plus de chat. Donc, ils n'ont de cesse de vouloir en avoir d'autres. Alors, moi, je crois que... Voilà, j'ai 4 enfants, 6 chats, c'est trop. C'est pas possible. Donc moi 2, c'est bon. Je trouve que c'est en fait c'est chouette d'avoir ce contact-là, donc qui est sans mots quand tu dois chercher les mots. Enfin, ça ne t'enlève pas les mots. Je sais pas s'expliquer. Tu rentres dans. Moi j'écris plus sur l'émotion. Ça c'est plus mon travail. Donc c'est clair que le chat appartient à ça maintenant. Oui, mais là, je suis forcée parce que j'ai 4 enfants, parce que je voyage et que si je dois écrire à un endroit, c'est cuit. Alors, jusqu'à présent, j'écrivais ici, mais là, maintenant, je réinvestis mon bureau, je suis ravie et en fait, elle me suit.
Rêver. Chercher, apprendre, n'avoir que l'écriture et pour maître et pour Dieu, tendre à la perfection à s'en crever les yeux, choquer l'ordre établi pour imposer ses vues, pour fendre, choisir, saisir, comprendre, remettre son travail 100 fois sur le métier, salir la toile vierge et pour mieux la souiller, faire hurler sans pudeur tous ces espaces nus, surprendre. Traverser les brouillards de l'imagination, déguiser le réel de l'ombre d'abstraction, désenchaîner le trait par 1000 variations, tuant les habitudes, changer, créer, détruire, pour briser les structures à jamais révolues, prendre les contre-pieds de tout ce qu'on a lu, s'investir dans son œuvre à cœur et corps vêtu, écrire, de peur, de sueur, d'angoisse, souffrant d'une étrange langueur qui s'estompe parfois mais qui refait bientôt surface. User de sa morale en jouant sur les mœurs et les idées du temps, imposer sa vision des choses et des gens, quitte à être pourtant maudit, aller jusqu'au scandale, capter de son sujet la moindre variation, explorer sans relâche et la forme et le fond, et puis l'œuvre achevée, tout remettre en question, déchirer d'inquiétude, souffrir, maudire, réduire l'art à sa volonté brûlant d'énergie, donner au sujet mort comme un semblant de vie et lâchant ses démons sur la page engourdie, écrire, écrire, écrire comme on parle et l'on crie. Il nous restera ça. Il nous restera ça.
Écrire ailleurs, de Bruxelles à Pékin, un documentaire de Vincent Meuchler, montage et réalisation Michel Bernard, mixage Laszlo Imbreit. Une production Unité Nomade avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'interview de Nathalie Sarraud est extraite de l'émission Radioscopie de Jade Chancel. Celle de Sorge Chalandon a été réalisée lors du Salon du Livre de Beyrouth en 2013 et produite par Lorient Lejour.